VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Après les Républicains avec le milliardaire Donald Trump la semaine dernière à Cleveland dans l'Ohio, c'est maintenant le tour du Parti démocrate de tenir sa convention qui doit sacrer Hillary Clinton comme candidate à la présidentielle de novembre. Une convention historique à Philadelphie, en Pennsylvanie, puisque l'ex-secrétaire d'État sera la première femme à être investie à ce poste par l'un des deux grands partis américains. Mais la réunion ne sera pas sans rebondissement, nous dit Tatiana Mosso, envoyée spéciale de VOA Afrique à Philadelphie.
Philadelphie fut un temps la capitale des États-Unis, là où fut rédigée la Constitution américaine. La ville est prête à vivre un autre moment de l'histoire du pays avec cette convention. Placée sous le signe de l'unité, la convention démocrate s'ouvre ce lundi au Wells Fargo Center. Une unité qu'il faudra confirmer avec la démission annoncée de la présidente du parti, Debbie Wasserman Schultz, qui quittera son poste tout de suite après la convention. En cause, la fuite ces derniers jours de milliers de courriels démontrant que l'organisation du Parti démocrate avait pris position ouvertement pour Hillary Clinton contre Bernie Sanders. En attendant, le programme s'annonce fastueux. Des discours de la première dame des États-Unis, Michelle Obama, et de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, tout ce que le Parti démocrate compte d'étoiles montantes et de poids lourds, notamment le président Barack Obama et l'ancien président Bill Clinton, qui s'exprimeront à la tribune au fil des quatre jours de la convention. Les forces de l'ordre ont commencé à quadriller la zone de la convention, mais alors qu'à Cleveland, les manifestations anti-Trump ont été négligeables, dépassant rarement la centaine de personnes, les divers organisateurs de rassemblements s'attendaient à plusieurs milliers de personnes à Philadelphie, des milliers d'irréductibles de Bernie Sanders qui défilaient dans les rues de la ville. Certains annonçaient déjà qu'ils ne voteraient jamais pour Hillary Clinton. Tatiana Mosso, VOA Afrique, Philadelphie.
États-Unis toujours, au moins 2 personnes ont été tuées, 14 blessées lors d'une fusillade dans une boîte de nuit de Fort Myers en Floride. La fusillade a eu lieu durant la nuit de dimanche à lundi au Club Blue, a précisé la police, sans donner davantage de détails. On passe maintenant à l'Afrique, Côte d'Ivoire. Les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'ouvrent aujourd'hui à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. Le montant des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint en 2014 plus de 289 milliards de francs CFA. La rencontre entre les présidents ivoirien Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc-Christian Kabore est prévu vendredi. Le secrétaire général adjoint de l'ONU et chef du département des affaires politiques effectue une visite d'une journée au Sénégal. Jeffrey Feltman aura des entretiens séparés avec le président sénégalais Macky Sall et le ministre des Affaires étrangères Manke Ndiaye. Il rencontrera également les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité ainsi que des directeurs régionaux des agences des Nations Unies basées à Dakar. Au Mali, après l'attaque djihadiste contre Nampala, le gouvernement malien a réinstauré l'état d'urgence. Depuis les attentats à la terrasse en mars 2015 dans la capitale, les autorités maliennes ne font que proroger cette disposition visant à restreindre certaines libertés. Mais les comportements des Maliens n'ont pas vraiment changé. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus depuis Bamako.
Le Mali est à son énième instauration d'état d'urgence. Sori Diakité, administrateur de l'action sociale.
Je pense que par définition, l'état d'urgence peut être conçu comme une restriction temporaire de liberté consécutive à une situation bien déterminée à un moment précis de l'histoire d'une localité ou encore d'une nation. Quant à la situation actuelle de l'état d'urgence au Mali, après sa première installation jusqu'à nos jours, le concept n'a pas été suffisamment expliqué à la population, raison pour laquelle la population est en train de divaguer entre les conceptions de l'état d'urgence et de couvre-feu.
Si du côté de la population, l'état d'urgence n'est pas compris, tel n'est pas le cas pour les forces de sécurité qui, pendant cette période, peuvent procéder à des perquisitions dans les domiciles ou interpeller des personnes sans passer par la justice. Cela ne suffit pas selon Mamadou Sidibé.
Je ne vois pas vraiment, l'impact n'est pas visible puisque les gens sortent n'importe quand, n'importe comment, et ils vont où ils veulent, quand ils veulent. Donc, on ne peut pas parler dans ce cas de l'instauration d'un quelconque état d'urgence. Le gouvernement devrait d'abord passer à une sorte de sensibilisation, passer, c'est-à-dire faire une médiatisation de l'état d'urgence. Donc je vois que jusque-là, cet état d'urgence n'est pas respecté. Nous sommes trop habitués au laisser-aller, au laisser-faire.
Actuellement, il y a un état d'urgence de 10 jours qui risque d'être prolongé par les parlementaires. Malien, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RDC, la coalition de l'opposition que préside Étienne Tshisekedi rejette le projet de dialogue national du facilitateur de l'Union africaine Edem Kodjo. Les précisions de Timothée Nonangmaye.
En annonçant en fin de semaine à Kinshasa les travaux du comité préparatoire du dialogue national qui doivent débuter le 30 juillet, le facilitateur Edem Kodjo avait pourtant assuré que tout le monde est maintenant dans les bonnes dispositions pour aller au dialogue proprement dit. Le rassemblement des forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement que dirige l'opposant historique Étienne Tshisekedi n'est pas de cet avis. Dans un communiqué publié à Bruxelles, cette coalition déplore, et je cite, « la précipitation avec laquelle M. Kodjo a lancé unilatéralement l'invitation pour les travaux préparatoires du dialogue ». Dans la même foulée, la coalition a récusé le facilitateur de l'Union africaine. Le président congolais Joseph Kabila avait annoncé en novembre dernier son intention de convoquer un dialogue national inclusif en vue d'élections apaisées en RDC. L'opposition avait en grande partie boudé ce projet, accusant le président congolais de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son dernier mandat qui expire en décembre.
Au Cameroun, quand va-t-on indemniser les familles déplacées pour des raisons de construction d'infrastructures? La question reste posée, mais pour l'heure, ce sont des fonctionnaires qui ont été emprisonnés pour détournement de ces fonds d'indemnisation. Les détails avec Sandrine Yamga, notre correspondante à Douala.
Au Cameroun, des populations ont été déguerpies dans plusieurs localités pour des projets d'envergure, soit la construction d'une route ou de quelconque infrastructure. Seulement au départ de tous ces projets, le même refrain est entonné, celui de l'indemnisation des populations riveraines. Du projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompangar à l'est Cameroun à celui de la construction du port en eau profonde de Kribi dans le sud Cameroun, la problématique est la même. Pour ce dernier cas, par exemple, des fonctionnaires ont été mis aux arrêts après que leur gestion du dossier des indemnisations a été décriée. 6 années après le début de l'opération, ces agents de l'administration camerounaise sont soupçonnés d'avoir, selon les autorités, détourné environ 4 milliards de francs CFA, représentant les indemnisations des populations des Garpi à Kribi. Omar Ndoumbé, habitant de Kribi, est proche d'une victime d'expropriation.
Vous savez que cette magouille était en train d'être faite par les autorités administratives. Vous savez, c'est eux qui ont l'information. Quand ils ont su que le port allait être créé et qu'il y aurait forcément des indemnisations, eh bien, ils se sont, en complicité avec les détenteurs du terrain, autorisés à faire des titres fonciers frauduleux.
Dans la ville de Douala, au Cameroun, autour de la construction du deuxième pont sur le Vouré, des populations ont dénoncé le processus d'indemnisation mis sur pied. Papa Joseph reste encore sous le choc en se rappelant d'une scène vécue lors du partage des sommes dues aux populations des guerpies du lieu dit Bonantonais, parmi lesquelles un inconnu.
Celui-là n'est pas parmi nous ici. Depuis que nous n'avons pas Bonanjo, on ne le connaît même pas. Mais hier, notre grand supplé lui porte un grand somme d'argent, 114 millions. Pourtant que nous les concernés, on n'a rien eu. Vous voyez ce que nous on a investi. Mais nous on n'a rien eu. Lui, il a pris 114 millions. Et quand tu regardes sur le lieu, il n'est pas ici avec nous.
C'est donc clair, les problèmes nés de la gestion des indemnisations sont quelquefois orchestrés par les autorités au détriment des populations. Et de Sandrine Yamga, Douala Cameroun, Voix de l'Amérique.
Crise migratoire, les corps de 41 migrants morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe ont été retrouvés sur une plage de Sabratha dans l'ouest de la Libye. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source locale. Selon l'Organisation internationale des migrations, près de 3000 candidats à l'émigration ont déjà péri cette année dans cette périlleuse traversée de la Méditerranée. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre, bien sûr, sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.